Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons regarder le psaume 52. Psaume 52. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, un cantique de David à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. » Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de toi le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui se trompait dans la malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Et jusque-là, la parole de Dieu. Le psaume 52 fait partie d'un groupe de psaumes qui contient une entête, une introduction, qui nous donne des détails au sujet de la composition de ce psaume. Je ne parle pas de ce titre en italique dans notre version « Châtiment du trompeur » qui est donné par l'éditeur, mais je parle bien des versets 1 et 2. Plusieurs experts aujourd'hui disent que ces versets, ces introductions n'ont aucune autorité, mais en faisant cela, ils oublient que les manuscrits anciens contiennent ces introductions comme faisant partie du texte. Et notre version tient compte de cette réalité, puisque les versets 1 et 2 sont les versets de l'introduction, alors que d'autres versions ont le verset 1 qui correspondrait à notre verset 3, ce qui est une erreur. L'introduction que nous avons ici, le verset 1 et 2, nous dit que ce psaume 52 donc, a été écrit par David en réponse à ce qui a sans doute été l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie, quand Doeg, l'Édomite, vint faire le rapport à Saül en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pour vous rappeler l'histoire, David était obligé de s'enfuir devant le roi Saül. Pourtant, ce David est le même qui, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, avait abattu le géant Goliath. Il a été au service du roi Saül pendant un certain temps. Il a mené les armées d'Israël. Il a même joué de la musique pour le roi Saül. Mais un jour, dans une jalousie folle, Saül s'est retourné contre David et a cherché à le tuer. David a été obligé de fuir. Il est allé dans la ville de Nob, là où se trouvait à l'époque le tabernacle et le souverain sacrificateur Achimélec. Et on lit cela en 1 Samuel 21 et les chapitres suivants. Et Achimélec, le souverain sacrificateur, ne savait pas qu'il y avait une tension entre le roi Saül et David. Et il a apporté son aide à David. Il lui a donné de la nourriture. Il a même donné l'épée de Goliath qui était enveloppée dans un drap. Alors que cela se passait, Saül devenait de plus en plus frustré devant son incapacité à mettre la main sur David. Et quelque temps plus tard, peut-être quelques jours, Saül était avec sa cour et se lamentait sur le fait que personne ne lui apportait des informations au sujet de David. Et on lit cela en 1 Samuel 21, les versets 7 et 8. Et une des personnes qui était présente, qui a entendu le roi se lamenter, était cet homme Doeg, l'Édomite. Il est décrit en 1 Samuel comme le chef des bergers de Saül. En entendant Saül se plaindre que personne ne lui apportait des informations au sujet de David, Doeg a saisi l'occasion pour se mettre en avant et dire au roi qu'il avait des informations. Il a dit au roi Saül qu'il était un Nob, accomplissant un devoir religieux dans le tabernacle. Et c'est là qu'il a vu arriver David et ses hommes. Et qu'il a vu Achimélec qui a aidé David en lui donnant le pain consacré et comme nourriture. Et qui lui a aussi donné l'épée de Goliath. 1 Samuel 22, versets 9 et 10. Doeg dit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Et dans le récit de 1 Samuel, Saül a éclaté en colère. Il a fait venir Achimélec et tous les autres sacrificateurs pour qu'il les juge pour ce qu'il considérait comme étant une trahison. Mais Achimélec a répondu qu'il ne savait rien au sujet d'une tension entre le roi Saül et David. 1 Samuel 22, verset 14, Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » 1 Samuel 22, 14 et 15. Mais Saül, le roi, était devenu de plus en plus dépravé, et cette réponse d'Achimélec n'a fait qu'accentuer sa colère. Il appelle ses gardes et leur ordonne de tuer le souverain sacrificateur, de tuer tous les sacrificateurs qui étaient présents. Les gardes ont refusé de commettre un tel sacrilège. Alors le roi s'est tourné vers ce serviteur avide, cet homme de confiance, ce chef des bergers, Doeg, l'Édomite. Et Doeg était plus que disposé à commettre ce sacrilège, d'assassiner le souverain sacrificateur avec tous les autres sacrificateurs. Et Saül a ensuite, avec Doeg, tué tous les habitants, tout le bétail, tous les êtres vivants dans la ville de Nob. On lit cela en 1 Samuel 22, des versets 16 à 19. David a entendu ce qui s'était passé à Nob. Et il a répondu de deux façons. Sa première réponse, David a pris sous son aile le seul survivant de ce massacre, Abiathar, le fils du souverain sacrificateur. Il a ainsi préservé la lignée du souverain sacrificateur. En fait, c'est Abiathar qui a fui la ville de Nob, qui est allé vers David pour lui dire ce qui s'était passé. On lit cela en 1 Samuel 22. Et David répond à Abiathar, « J'ai bien pensé que ce jour même, que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi. Ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » David se sentait mal de ne pas avoir dit toute la vérité à Achimélec et il pensait avoir une part de responsabilité dans cette affaire. Mais la deuxième réponse de David, c'est d'écrire ce psaume 52. Et dans ce psaume, David nous montre, lorsque nous sommes consternés par le mal qui est dans ce monde, peut-être même que nous voyons nos manquements, nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Et ce que nous devons faire dans ce cas, c'est de nous tourner vers Dieu. Et David nous montre comment venir à Dieu, comment le prier, comment lui ouvrir nos cœurs, déposer nos fardeaux et nos souffrances devant lui. C'est ce que David fait dans ce psaume. C'est un bel exemple, comme dans tous les psaumes d'ailleurs, où nous pouvons voir la vie difficile avec laquelle nous luttons. Et David qui nous prend par la main pour nous amener vers Dieu. C'est ce qu'il fait dans ce psaume. David est scandalisé par les actions meurtrières de Saül et en particulier de Doeg. Et dans ce psaume, il cherche la justice de Dieu. J'ai trois grands points qui sont ensuite avec des petits points, surtout les deux premiers. Mais le premier grand point, c'est la méchanceté des ennemis. David commence ce psaume par, après son introduction, par parler de façon rhétorique à son ennemi, comme si l'ennemi était devant lui, comme si Doeg était devant lui. Il lui dit au verset 3, « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran ?» Le genre de glorification, d'orgueil que David a en tête, c'est cette attitude d'autosatisfaction, d'autosuffisance qui se vante du succès de ses mauvaises actions. Et David dit que cet air de supériorité dans lequel Doeg se réjouit est mal placé quand il est basé sur des actions mauvaises. Et dans les versets 3 à 6, David va condamner Doeg en cataloguant sa dépravation. Il lui dit en quelque sorte, tu te glorifies, tu te vantes, tu as cet air de supériorité, mais laisse-moi te montrer ce que tu es réellement. Et petit 1, d'abord, David ridiculise son ennemi à cause de son cœur mauvais. Et on voit cela au verset 3. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? C'est le cœur qui se glorifie. Quel genre de cœur possède Doeg qui se glorifie, qui se plaît dans la méchanceté? Quel genre de cœur possède Doeg qui peut être satisfait par l'atrocité qu'il vient de commettre? Les désirs de cet homme, ses affections, étaient entièrement livrés au péché. C'est pour ça qu'il était si méchant. Un commentateur écrit, « Une des preuves les plus décisives de la nature réprouvée, de la nature de l'incroyant, c'est que nous nous glorifions dans ce qui fait notre honte. » Et c'est intéressant de noter que l'idée de honte a quitté notre culture aujourd'hui. Il y a des choses qui sont honteuses, nous ne devrions pas nous glorifier dans ces choses, mais le monde aujourd'hui ne parle plus de honte. Et cela montre une dépravation avancée. On le voit dans la société, il y a des actes honteux de méchanceté, de violence, de péché contre nature. On ne devrait pas se glorifier dans de choses honteuses, dans de telles choses honteuses. Doeg se glorifie dans ce qui fait sa honte. Il montre son cœur mauvais. Un autre commentateur dit ceci au sujet de Doeg, c'est lui qui s'est vanté, non seulement dans le pouvoir qu'il avait de faire du mal, mais dans le mal qu'il a fait. Notez qu'il n'est pas bien de faire le mal, mais il est pire de se vanter et de se glorifier dans le mal quand nous l'avons fait. Il est mal de ne pas avoir honte d'une action méchante, mais il est pire de la justifier. Il est mal de justifier cette mauvaise action, mais il est pire de la magnifier et de nous valoriser par elle. Ceux qui se glorifient dans leur péché se glorifient dans leur honte, et leur péché devient alors encore plus honteux. Comme le dit le psaume 10, verset 3, le méchant se glorifie de sa convoitise. Ça, c'est Matthew Henry, un commentateur, qui le dit. Mais voilà le cœur mauvais de Doeg. Il se réjouit de l'occasion qui lui était donnée de se mettre en valeur aux yeux du roi, aux dépens des autres, et en commettant le meurtre. Et David se moque de lui en l'appelant tyran, parfois traduit homme fort. Le terme utilisé décrit plutôt une position, faisait sans doute partie de la garde rapprochée de Saül. Dans les deux livres de Samuel, on retrouve cette expression « homme fort » et Doeg était l'un d'eux. Et David lui pose la question. Il dit « Mais quelle est ta force quand tu te glorifies du meurtre de ceux qui étaient sans défense ?» Alors que Doeg exulte dans ses actions, David souligne à la fin du verset 3 « La bonté de Dieu subsiste toujours. Les méchants vont se vanter. » Mais ils ne vont pas se vanter pour toujours. Dieu qui vit éternellement va réparer ce qui est mal. Il va faire toutes choses bonnes. Il va défendre la cause de ses serviteurs justes. Et le fait que Doeg aime le mal plus que le bien, David le dit au verset 5, révèle simplement la folie de son cœur mauvais, dans un monde qui un jour va être jugé par Dieu. Doeg révèle son cœur mauvais. Petit 2, David révèle la dépravation de l'esprit méchant de son ennemi. Doeg n'est pas un homme qui est malheureusement tombé dans le péché, qui a pris un mauvais chemin alors qu'il ne voulait pas le prendre. Non, non, loin de là. C'est un complot, une machination. Regardez verset 4. « Ta langue n'invente que malice. » D'autres versions disent « Ta langue n'invente que des projets de destruction. » Doeg était comme ceux que le prophète Michée a dénoncés en Michée chapitre 2, verset 1. « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. » Au lieu de dormir, au lieu de profiter du repos, au lieu de remercier Dieu à la fin de la journée, au lieu de cela, ces personnes réfléchissent, leur esprit bouillonne, ils se demandent « Qu'est-ce qu'on va faire demain matin? Qui est-ce qu'on va dérober? À qui va-t-on faire du mal? Comment va-t-on s'enrichir aux dépens des autres ?» Et on a cela tout autour de nous aujourd'hui, en politique, dans le monde des affaires, dans le monde en général, voilà ce qui se passe. Voilà ce genre d'esprit méchant, dépravé que nous voyons. Et que nous voyons ici, chez Doeg. Quand Doeg a vu David au tabernacle, il n'a pas immédiatement et de façon spontanée averti Saül. Il a réfléchi à la façon dont il pouvait tirer le meilleur profit. Doeg a attendu la meilleure occasion. Et quand l'occasion s'est présentée, quand Saül se lamentait de ne pas savoir où David se trouvait, Doeg était prêt. Il savait ce qu'il fallait dire. Il était prêt à se mettre en avant en utilisant l'information qu'il possédait avec son esprit méchant pour faire le mal à d'autres. Il y a le cœur mauvais qui ne désire que le mal. Il y a l'esprit méchant qui complote habilement. Comment faire ce mal? David, troisièmement, petit 3, focalise son attention sur la bouche méchante de son ennemi. Cette bouche qui se glorifie dans le mal. David écrit au verset 4, « Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. » Verset 5, il le décrit, « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Doeg préférait le mensonge à la vérité. Et c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement. On commence à mentir, on s'habitue à tromper les autres. Cela devient presque un jeu, et c'était le cas pour Doeg. Doeg aimait tromper les autres. David l'appelle « fourbe que tu es », c'est le contraire d'honnête. Et David conclut au verset 6, « Tu aimes toutes les paroles de destruction. » Les gens comme Doeg prennent plaisir dans ces paroles qui détruisent les autres, qui tirent les autres vers le bas. Il passe du temps à étudier le vocabulaire des paroles de destruction. Pour Doeg, ces paroles étaient une arme. Il savait très bien qu'en ouvrant sa bouche devant Saül, des épées allaient être tirées, la vérité serait piétinée, des vies seraient détruites. Mais en examinant cet homme méchant qu'était Doeg, il y a un danger pour nous. Le danger serait de dire que ce serait terrible d'être une personne aussi méchante que Doeg. Imaginez que l'on ressemble à Doeg avec un cœur mauvais, un esprit méchant, une bouche méchante. La parole de Dieu nous dit à chacun d'entre nous que c'est notre cas par nature. Quand on voit des passages comme celui-ci, ce que la Bible est en train de faire, c'est de mettre la condition humaine dans le péché, sous une forme concentrée, afin que nous la remarquions. C'est comme dans le Nouveau Testament, où nous voyons des personnes qui étaient possédées. Voilà où la dépravation mène. Voilà où le péché mène. Doeg est simplement un peu plus loin sur le chemin que la plupart d'entre nous, mais voilà où la dépravation mène. Le massacre des sacrificateurs et de tous les habitants de la ville de Nob ne fait que montrer la corruption, la dépravation totale de la race humaine. Tout homme, affirme la parole de Dieu, toute femme est corrompue par le péché. Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» On doit savoir cela, pas seulement au sujet des hommes qui ressemblent à Doeg, mais aussi au sujet aussi de notre cœur, si le Seigneur n'est pas venu pour le changer. Quand on parle de la condition humaine, il n'y a pas de neutralité morale. Même le croyant qui a été racheté mène une bataille contre un cœur né de nouveau, qui a besoin d'être renouvelé, parce que nous sommes naturellement enclins au mal. C'est aussi vrai en ce qui concerne nos esprits, nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous devons être nourris de la parole de Dieu chaque jour. Nous avons besoin de commencer la journée avec la vérité, la lumière que Dieu nous donne. Pourquoi ? Parce que par nature, notre esprit est méchant. Et nous vivons dans un monde méchant. Nous avons chanté le cantique 179 au sujet de la parole de Dieu. La deuxième strophe dit ceci, « Elle est la vérité, la sagesse suprême. Par elle, je connais mon éternel destin. Ce fidèle miroir me dévoile à moi-même, en me montrant mon cœur, toujours au mal enclin. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on lit quelque chose dans le journal ou sur Internet, ou quand on regarde les informations, ou qu'on les écoute à la radio, notre esprit se dirige vers les choses vers lesquelles il ne devrait pas se diriger. Et il y va directement. On a réalisé que tous les êtres humains, par nature, sont loin de Dieu. Comme dit Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » L'être humain qui ne connaît pas la grâce de Dieu est totalement dépravé dans son intelligence. Et le croyant ne doit pas oublier que lui-même, il doit combattre un esprit méchant qui est encore présent dans la chair. Le combat de Romains 7, par exemple. Mais plus encore, Doeg était loin d'être la seule personne à dire du mal avec sa bouche. L'apôtre Paul décrit toute l'humanité. Et sa description ressemble à ce que David dit au sujet de Doeg. Rappelez-vous le passage en Romains chapitre 3. L'apôtre Paul écrit, et il cite plusieurs passages de l'Ancien Testament, et ce sont des images assez parlantes. Et Romains 3, à partir du verset 13, il dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Quand on ouvre une sépulture, ça sent pas très bon. « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Et Paul leur dit « Vous avez un poison dans la bouche quand vous laissez votre nature pécheresse s'exprimer. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » En se focalisant particulièrement sur la façon dont le péché se manifeste par la parole, le psaume 52 nous rappelle que c'est une très grande erreur que de prendre les mots à la légère. Avec nos mots, nos paroles, nous pouvons soit bâtir, donner du courage, être une bénédiction pour quelqu'un, soit faire le mal, comme il est décrit et condamné dans ce psaume. La parole, ce que nous disons, est une question importante selon la parole de Dieu. Jacques écrit en chapitre 3 de sa lettre, verset 5, « La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » David a prié dans le psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Doeg, par son mauvais exemple, nous rappelle que les paroles ont un poids, les paroles comptent beaucoup. Le psaume 52 non seulement condamne les mauvaises paroles, il nous montre aussi comment l'état de notre cœur est révélé par nos paroles. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a souligné en Matthieu 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce ne sont pas seulement des paroles qui sortent de notre bouche, mais la façon dont nous parlons révèle le genre de personne que nous sommes. Matthieu 12, verset 37, un peu plus loin que le verset que je viens de citer, le Seigneur dit « Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » De plus, quand on considère que ce que le discours de Doeg a accompli, à savoir le massacre des sacrificateurs et des habitants de toute vie humaine, de toute vie en tout court dans la ville de Nob, on peut comprendre alors pourquoi le Nouveau Testament met l'accent sur le peuple de Dieu, dont les péchés ont été pardonnés, afin qu'ils nettoient leur discours, qu'ils purifient leur discours. Et cela n'inclut pas seulement le fait de ne pas dire de mauvaises paroles, mais cela veut dire aussi de ne permettre qu'à de bonnes paroles de sortir de notre bouche, apprendre à parler de manière gracieuse, dans la vérité, dans la crainte de Dieu, recherchant le bien de l'autre. Et on voit dans la famille chrétienne en général que ceux qui ont marché avec le Seigneur pendant de nombreuses années, ceux qui sont des modèles de foi et de grâce, ce sont les mêmes personnes qui font attention à leurs paroles, à ce qu'ils disent. La grâce dans leur cœur les a mis au défi concernant leurs paroles. Et cela les pousse à réfléchir avant de parler. Ils ne veulent pas simplement parler pour avoir l'air intelligent ou pour remporter le débat. Ils veulent parler d'une manière remplie de grâce, parce que c'est de l'abondance du cœur que leur bouche parle. Et cela devrait nous amener à soumettre nos cœurs à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jacques a fait cette déclaration inquiétante, quand il a parlé de la parole et de la langue, et après tout ce qu'il a dit, il arrive à la conclusion, Jacques 3, verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Mais le problème qui est derrière la langue, c'est notre cœur. Et nous avons besoin d'amener notre cœur au Seigneur, de lui demander d'œuvrer dans notre cœur de telle façon que cela se voit dans la façon dont nous parlons, dont nous utilisons notre langue, comme David, de prier « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Mais le but de David en écrivant le psaume 52 n'était pas simplement de cataloguer, de condamner la méchanceté de son ennemi. Nous arrivons au deuxième grand point, où David va mettre en avant la justice de Dieu. Et David se console avec sa connaissance de la justice de Dieu. David est certain de la vengeance de la part de Dieu sur les méchants comme Doeg. Il est possible, certains disent que David a eu une révélation spéciale de la part de Dieu, mais c'est improbable. Ce qui est le plus probable, c'est que David connaissait la parole. Il connaissait la Bible. Il savait que le méchant qui se vante de sa méchanceté sera un jour jugé. Doeg sera jugé. Et David pouvait entrevoir cette réalité. Il le dit dans les versets 7 et 9. Et comme David le voit, ce jugement prendra la forme d'un renversement des mauvaises actions commises par les méchants. Les choses que ces personnes ont faites pour avoir du succès dans le monde, ces mêmes choses leur seront faites à eux. Charles Spurgeon écrit dans le Butin du Roi, « Dieu donnera aux hommes de méchanceté une part selon la mesure dont ils se sont servis. » C'est ce que dit David au verset 7. Doeg avait détruit les sacrificateurs, le d'Éternel. David dit, aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Doeg avait arraché les habitants de Nob de leur maison. David lui dit, Dieu te saisira et t'enlèvera de ta tente. Cette déclaration fait peut-être allusion au tabernacle, là où l'officiel et sacrificateur Doeg pensait peut-être pouvoir s'en tirer en profanant le tabernacle de Dieu. Mais l'Éternel va enlever la tente de Doeg et faire de lui un sans-abri pour toujours. Et finalement, comme Doeg avait éliminé les sacrificateurs, David dit à la fin du verset 7, « Dieu te déracinera de la terre des vivants. » Ce verset 7 est un parfait exemple de ce qu'on appelle la justice rétributive. Dieu punira les pécheurs avec un jugement qui correspond à leurs actes. C'est à souligner parce que dans ce monde post-moderne dans lequel on vit, certains esprits, certains experts qui se disent évangéliques nous disent que cela n'est pas vrai, que c'est une manière de penser qui date, qui n'est plus d'actualité. Ils disent que l'enfer, ce n'est qu'une séparation d'avec Dieu. Ce qui est vrai, c'est une séparation d'avec Dieu, mais la Bible enseigne que c'est bien plus que cela. Il y aura des souffrances corporelles, éternelles, pour les hommes de méchanceté en enfer. Et David parle d'un jugement violent qui correspond aux actions terribles, violentes de Doeg. Dieu va juger. Son jugement est une rétribution. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste. Dieu est glorieux dans sa justice. Et si le monde n'apprécie pas cela, Dieu l'apprécie. Et il rétribuera les méchants pour leurs mauvaises actions. Mon commentateur écrit que la menace de jugement par David montre que la chute des méchants et des puissants à la fin sera totale. Et c'est exactement ce que l'on voit. À la fin, ceux qui se glorifiaient avec leur bouche, qui ont levé la main contre Dieu et contre ses serviteurs, tous ceux qui ne sont pas venus à la Jésus-Christ dans la repentance et la foi pour trouver en Christ le refuge, le jugement qu'ils recevront sera total et définitif. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Mais David ne se limite pas à déclarer la réalité du jugement de Dieu. Il poursuit en notant l'effet de ce jugement sur le peuple de Dieu. Et là, il y a trois choses. La première, c'est que les justes verront la justice et le jugement de Dieu. Verset 8, les justes le verront. Ils verront le jugement de Dieu. Ils verront la justice de Dieu. Et c'est important. Certains croyants sont dans l'embarras au sujet du jugement de Dieu, au sujet de l'enfer. Et certains disent, si Dieu doit le faire, qu'il le fasse à un endroit où on ne le voit pas. Mais ce n'est pas ce que le psalmiste dit. David loue Dieu parce qu'il verra la justice de Dieu. Ce n'est pas que David soit motivé par une certaine haine ou qu'il soit une personne méchante lui-même. David est dans ce monde où il doit poser les questions suivantes. Qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi les méchants semblent s'en tirer sans que rien ne leur arrive ? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir sont-ils des hommes de méchanceté ? Pourquoi ce sont eux qui possèdent les richesses ? Doeg va à Nob pour massacrer les sacrificateurs de l'Éternel, les habitants de la ville. Rien ne lui arrive. Est-ce que Doeg peut s'en tirer comme cela ? Quand est-ce que cette situation va-t-elle être renversée ? Quand est-ce que le méchant va être puni ? Et David dit, le jour vient où la rétribution tombera sur Doeg et les justes le verront. Et ils donneront gloire à Dieu qui manifeste sa justice. On peut citer un autre exemple que l'on trouve dans le livre d'Esther. Mardoché, qui avait adopté Esther, était un homme qui craignait Dieu. Il s'oppose à Aman, qui voulait exterminer le peuple d'Israël, le peuple juif. Et Dieu, non seulement va donner la victoire à Mardoché, mais il va aussi lui permettre de voir Aman pendu à la potence qu'il avait érigée pour pendre Mardoché. Il voit la délivrance de Dieu et il voit le jugement de Dieu. On pourrait aussi parler de la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël quand l'Éternel a fait retomber la mer sur les Égyptiens qui poursuivaient le peuple d'Israël. Les Israélites ont vu les corps des Égyptiens. Et on lit en Exode 14, versets 30 et 31, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et ce sera la même chose à la fin de l'histoire. Les justes verront la justice de Dieu et ils lui donneront gloire. » Le deuxième petit point, les justes auront de la crainte à cause de la justice de Dieu. Quand on voit la chute des ennemis de Dieu, que ce soit dans la vie ou à la fin de l'histoire, on doit le noter, mais cela devrait avoir pour conséquence une plus grande crainte de l'Éternel. Dans le passage que nous venons de lire en Exode 14, après la traversée de la mer Rouge, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. L'apôtre Paul dit cela quand il écrit aux croyants concernant le jugement de Dieu sur les Juifs qui ont rejeté le Messie. Romains 11, verset 19 et suivant, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas douter que Dieu nous sauvera si nous plaçons notre confiance en lui. Non, c'est plutôt la réalisation que nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons être sérieux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous devons jouer pour gagner, parce que le mal, le péché sont mortels. Troisième petit point, les justes vont se moquer de leurs ennemis. Regardez la fin du verset 8 et le verset 9. Ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point pour Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. C'est pas le genre de moquerie qui regarde à la destruction des méchants comme une sorte de divertissement plein d'arrogance. Non, c'est une réjouissance qui se glorifie dans la victoire d'un Dieu qui est juste et saint et qui s'est montré fidèle jusqu'à la fin. C'est le soulagement, le rire de ceux qui se glorifient dans le Seigneur. Et David nous dit, apprenons la leçon. Ce que nous voyons en Doeg, c'est un homme qui n'a pas pris Dieu pour protecteur, qui n'a pas trouvé en Dieu son refuge. Il a mis sa confiance dans les grandes richesses, dans un pouvoir pervers. C'est l'un ou l'autre. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même enseigné que l'on ne peut servir qu'un seul maître. On ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Notre plan pour le succès est soit d'être sauvé par Dieu qui est tout-puissant, soit de nous sauver nous-mêmes par les richesses et le pouvoir. Et David nous dit, apprenons la leçon de Doeg, apprenons la leçon de la chute qui arrive pour Doeg. Cela doit nous pousser à nous tourner vers le Seigneur, à regarder à lui et non aux choses de ce monde qui passent. Les justes verront le jugement. Et ils se réjouiront. Rappelez-vous la fin de l'Apocalypse. Babylone, image de ce monde, est tombée, jugée. On lit en l'Apocalypse 18, verset 20, « Ciel, réjouis-toi sur elle, Babylone. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Réjouissez-vous. Nous nous réjouissons de la gloire de Dieu dans son jugement. Mais David n'a pas seulement écrit ces paroles pour prophétiser au sujet de ce qui attendait Doeg. On a ici l'image de tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu, qui ont mis leur confiance dans les richesses, le pouvoir, les plaisirs du monde, qui ont transformé les choses légitimes en idoles. Ça peut être les études, le travail, le sport, l'indépendance, les plaisirs. David nous dit, ne tombons pas dans le même piège que Doeg. Doeg s'est vanté de tout ce qu'il avait acquis, de son pouvoir méchant. Et à cause de cela, il était aveugle. Il ne voyait pas l'éternité qui l'attendait. La vie est courte, l'éternité est longue. David nous rappelle que nous ne devons pas être aveuglés par ce monde et tomber dans le piège de Doeg, mais que nous devons vivre à la lumière de l'éternité. Tout ce que le monde peut nous offrir ne tiendra pas au jour du jugement. Si on se réfugie dans les choses de ce monde, elles ne pourront pas nous sauver. Le seul refuge de notre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'il faut aller. Dans les récits des événements de la fuite de David, que nous trouvons en 1 Samuel, les chapitres 21 à 26, on voit un contraste avec ce psaume 52. Ici, David se réjouit du jour qui vient où la justice de Dieu éclatera, le coupable sera condamné. Dans la vie, David a aussi versé beaucoup de larmes. Alors que David écrit ce psaume, Doeg est en train de mettre en place une chasse à l'homme. David va vivre comme un homme recherché dont la tête est mise à prix. Il va commettre des erreurs, il va vivre dans la crainte, il va vivre dans la frustration pendant plusieurs années. Et c'est sans doute pour cela qu'il conclut le psaume comme il le fait. Et c'est donc la troisième grande partie, la conclusion de ce psaume. David ne veut pas que ceux qui savent ce qui se passe regardent aux circonstances extérieures et arrivent à la conclusion que David a tiré la paille la plus courte. La pire des choses, quand on voit les méchants qui triomphent, même simplement les gens du monde, qui avancent dans la vie, qui semblent être sous la bénédiction de Dieu, c'est de se dire « Ah, j'aimerais être comme eux ». David dit au verset 10, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » David était très affligé. Il avait des raisons d'avoir peur, de redouter ses ennemis, d'être frustré. Mais il dit, « Vous voulez connaître la vérité à mon sujet ? Je suis comme un olivier verdoyant dans la présence de Dieu. » L'olivier est une belle image de la prospérité spirituelle. C'est une belle image de la vie et de la vie éternelle. Un olivier fort, bien placé, peut porter du fruit pendant des siècles. Le fruit donne la nourriture pour les hommes, de l'huile pour l'éclairage, un médicament pour soulager la douleur, la maladie. Être comme un olivier verdoyant, cela veut dire posséder l'huile de la grâce de Dieu dans le cœur. Et David dit, voilà ce que moi je possède. Eux, ils ont l'armée, ils ont les richesses, ils ont le pouvoir, ils ont tout cela contre moi. Moi, j'ai l'huile de la grâce de Dieu dans mon cœur. Une autre réalité concernant l'olivier, c'est sa capacité à survivre les sécheresses. Et c'est la réalité pour le croyant. Même au temps difficile, il porte du fruit en toute saison. Et David précise qu'il est comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je trouve que l'olivier est aussi une image biblique, un symbole biblique pour l'Église de Jésus-Christ, pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en Romains chapitre 11, parle des Israélites comme des branches qui ont été retranchées de l'olivier et que les croyants d'origine païenne ont été greffés sur l'olivier. Et Paul fait cette déclaration que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les personnes qui appartiennent à Dieu, qui grandissent dans sa présence, avec la lumière de sa grâce qui les éclaire, l'huile de son Esprit Saint qui vient les nourrir. David est en train de dire, il vaut mieux avoir des circonstances calamiteuses comme celles que David a décrites et qu'il connaît à ce moment-là, d'avoir accès à la grâce, à la gloire de Dieu, de savoir qu'il prend soin de moi, que c'est lui qui dirige mes pas, que c'est lui qui sauve parfaitement. Il vaut mieux avoir cela que d'avoir les richesses et le pouvoir du méchant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Mais cette description, en décrivant la vie de cette façon, la vie de bénédiction dans la présence de Dieu, ce psaume 52 nous rappelle, j'espère, le psaume 1, où le psalmiste décrit le contraste entre le croyant et les doègues de ce monde. Le psaume 1 commence, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voilà ce que nous devrions rechercher. Les choses de ce monde passent. Elles apportent une satisfaction pour un temps qui est limité. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous sauver. Nous devrions chercher à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà la vie que Dieu donne à ses enfants. Voilà la vie que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Par contre, le psaume 1 continue. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. La voie des pécheurs mène à la ruine. Et c'est ce qui est arrivé à Doeg. On n'en entend plus parler dans la parole. Il s'enfle d'orgueil et il est dissipé comme la paille que le vent souffle. La vie riche et remplie de bénédictions ne peut s'acheter avec de l'argent. C'est Dieu qui la donne gratuitement par sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est à Jésus-Christ qu'il faut aller pour avoir la vie, pour avoir la vie en abondance. Et David va conclure ce psaume 52 avec une description de sa réponse à Dieu. Et là encore, on a trois petits points. D'abord, David se décide d'honorer Dieu en se confiant dans sa bonté. À la fin du verset 10, « Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » David allait connaître des hauts et des bas dans les années à venir. Mais et c'est toute la richesse des psaumes de voir le psalmiste dans toutes sortes de situations. Mais David décide d'honorer Dieu, même s'il est très faible, en se confiant dans la grâce et la bonté de Dieu. Voilà la ressource sur laquelle David compte. Voilà ce dont il a besoin, de savoir que Dieu l'aime. Comment faire? Comment se confier dans l'amour, dans la grâce au milieu des épreuves? Jean Calvin écrit, il dit, nous devrions considérer comme la grande fin de notre existence d'être comptés parmi les adorateurs de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Voilà la grâce que Dieu nous a manifestée. Il a fait de nous des sacrificateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a révélé son amour pour nous en Jésus-Christ. Et il nous comble de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Comme Paul le dira aux Romains chapitre 8, versets 31 et 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dieu a prouvé son amour envers nous en nous donnant son propre Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Reconnaissons que tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne, nous l'avons par grâce. Et comptons sur cette grâce merveilleuse de Dieu. Et de cette manière, nous glorifierons Dieu dans nos vies. Je me confie dans la bonté de Dieu. Parce que tout ce qu'il m'appelle, tout ce qu'il m'accorde, n'est que par grâce. Il n'y a aucun mérite. Deuxième point, David va ensuite offrir un cœur reconnaissant, malgré les difficultés qu'il traverse. Voilà quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui est pourchassé, dont la tête est mise à prix. Il dit au verset 11, « Je te louerai toujours, parce que tu as agi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? David regarde à l'avenir. Il sait que la parole de Dieu est si certaine qu'il la considère comme déjà accomplie. Je te loue parce que je sais que c'est une réalité, c'est une certitude, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Tu vas juger le méchant. Et le croyant qui est appelé par la grâce de Dieu doit traverser toutes sortes d'épreuves et de difficultés, mais il doit aussi réaliser que Dieu ne le punit pas. Et il nous sauve à travers ces épreuves. Même si nous ne savons pas tout ce qui nous attend en chemin, nous avons cette glorieuse espérance qu'à la fin, nous serons dans la présence même de Dieu, pour toujours, sans péché, sans maladie, glorifiés. Et pendant ce voyage dans le désert, en route vers notre terre promise, vivons d'une façon qui remercie Dieu pour l'œuvre qu'il a faite, parce que cette espérance glorieuse, c'est lui qui nous l'a donnée, en nous réconciliant à lui-même par Jésus-Christ. Et si David pouvait dire « Je te louerai toujours parce que tu as agi », nous avons encore plus de raisons de le dire. Quand David dit « Parce que tu as agi », on ne peut s'empêcher de penser aux dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli. » Oui, son jugement des méchants est une certitude et nous louerons Dieu pour sa justice. Mais il a aussi accompli l'œuvre du salut, le salut de son peuple. Et en Jésus-Christ, notre pardon est accompli. Notre vie éternelle est sécurisée. Comme le verset cité tout à l'heure, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ a payé le prix à notre place. Et Dieu étant juste, il n'exigera pas que le prix soit payé une deuxième fois. Si Christ a payé le prix, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si David voulait offrir un cœur reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait, nous avons toutes les raisons pour offrir un cœur plein de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et l'amour reconnaissant est aussi la source de la véritable obéissance. Petit 3, David enfin décide d'espérer dans le Seigneur, à la fin du verset 11, « Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. » Qu'est-ce que cela veut dire, espérer en ton nom? C'est compter patiemment sur la miséricorde de Dieu et continuer d'avancer même au milieu des afflictions. David parle d'espérer en ton nom parce qu'il est favorable. Dieu est disposé à nous écouter, à répondre à nos prières, à subvenir à nos besoins, parce que en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu et nous pouvons venir à lui en toute confiance. Et David se contente d'être compté par le peuple affligé de Dieu sur la terre parce qu'il sait que ce Dieu qui est favorable va révéler le salut à la fin. Faire partie du peuple de Dieu qui est affligé sur la terre maintenant, c'est faire partie du peuple de Dieu qui sera glorifié dans l'éternité. David a appris que la façon de vivre dans un présent qui est difficile, c'est de vivre à la lumière de cette fin glorieuse qui attend le peuple de Dieu. Dans ce monde, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a avertis que nous aurons des tribulations. Mais n'oublions pas qu'il a rajouté, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans la gloire, qu'il va racheter son peuple, qu'il va le prendre avec lui. Nous serons pour toujours dans sa présence. Nous serons éternellement reconnaissants pour l'œuvre que Dieu a accomplie en son Fils. David savait que les méchants seraient retranchés à la fin. Ceux qui se confient en lui attendent une gloire éternelle. et nous serons des oliviers verdoyants pour toujours dans la maison de l'Éternel. Et le raisonnement de David est le suivant. Comparé à l'éternité, que sont ces quelques semaines, même quelques années de difficultés, parfois de très grandes difficultés? Il ne faut pas minimiser la difficulté, mais qu'est-ce que cela à la lumière de l'éternité? Rappelons-nous qu'il y a une éternité de gloire qui attend les enfants de Dieu. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. » La gloire éternelle est encore à venir, et même si l'attente est longue, ça vaut la peine d'attendre en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut la peine de vivre une vie de reconnaissance en attendant cette gloire. Le fait de savoir que cette gloire nous attend à la fin devrait nous assurer de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, un amour qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait tout cela pour nous est le Dieu que nous devrions servir, dans lequel nous devrions nous confier et auquel nous devrions rendre gloire, même au milieu des difficultés. Alors, au lieu de nous glorifier dans le péché comme le fait Doeg, comme l'être humain le fait naturellement, écoutons ce que Dieu dit en Jérémie 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.